La passion de Jésus fut-elle un sacrifice offert à son Père ? En regardant notre crucifix, nous aimons contempler l'amour incroyable avec lequel Jésus demanda à son Père de pardonner à ses bourreaux. Quel abîme de douceur et de miséricorde ! Mais nous avons un peu plus de mal à y voir aussi un sacrifice que Jésus offre à son Père et qu'il continue à offrir sur l'autel de nos Eucharisties. Or, avant de communier au corps et au sang du Christ, nous les offrons en sacrifice à son Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Prière eucharistique numéro 3. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Prière eucharistique numéro 4. Regardons ce que nous dit l'Écriture à ce propos. Tous les livres du Nouveau Testament affirment clairement le caractère sacrificiel de la mort du Christ, à commencer par les paroles que Jésus a prononcées sur le pain et le vin lors de son dernier repas. « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour la multitude en rémission des péchés. » Le Christ s'est livré pour nous, affirme Paul, offrant des sacrifices à Dieu en parfum d'agréable odeur. Et dès le début du quatrième évangile, nous entendons Jean-Baptiste nous présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quant à la lettre aux Hébreux, elle présente les sacrifices de l'Ancien Testament comme l'annonce du sacrifice parfait que le Christ devait offrir à son Père, lorsqu'il entrerait dans le sanctuaire du ciel, non pas avec du sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Dieu a de la suite dans les idées. S'il a demandé au peuple d'Israël de célébrer des sacrifices sanglants pendant des siècles dans le temple de Jérusalem, c'est que ces sacrifices devaient préfigurer le sacrifice unique que son Fils lui offrirait lorsqu'il serait crucifié en dehors des portes de la ville. N'allons donc pas dire que les Juifs étaient ridicules de sacrifier chaque année pour Dieu des milliers de bêtes. Ils ne faisaient qu'obéir aux prescriptions précises du Lévitique en ce domaine, des prescriptions que Dieu lui-même avait dictées, afin que l'immolation de ces bêtes annonce le sacrifice du calvaire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à croire que le drame du calvaire ait pu être un sacrifice offert par le Christ à son Père. Comment Dieu peut-il se plaire à voir son Fils torturé sur une croix ? Affirmer que nous avons été réconciliés avec le Père par le sacrifice de la croix, n'est-ce pas revenir à la pensée de nos ancêtres païens qui s'imaginaient apaiser la colère des dieux en leur offrant des sacrifices ? Telle était la religion des Aztèques. Telle était la religion des Grecs, sacrifiant Iphigénie pour que les dieux leur fassent gagner la guerre en envoyant des vents favorables sur leur flotte. Telle était la pratique des Cananéens, immolant leur premier-né au dieu phénicien, au Baal. Or Dieu a justement fait comprendre une bonne fois à Abraham qu'il ne devrait plus jamais lui offrir un enfant en sacrifice. D'ailleurs, dans la parabole de l'enfant prodigue, Jésus nous révèle un Dieu plein de miséricorde qui pardonne à son enfant sans rien lui demander en échange. Il se contente de l'embrasser et de faire la fête avec lui. N'est-ce pas ce que suggéraient déjà pas mal de psaumes ? Ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les sacrifices de taureaux et de boucs, mais le cœur contrit du pécheur qui se convertit. Nous nous trouvons ici, une fois de plus, devant un paradoxe. Le pardon de Dieu est effectivement un acte absolument gratuit de sa miséricorde, mais d'autre part, Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme subisse sa passion, qu'elle faisait partie de sa mission. Dieu, nous semble-t-il, aurait pu nous pardonner sans exiger que son Fils lui offre un sacrifice en rémission, en réparation de nos péchés. Cette idée d'expiation n'est pas à la mode, reconnaît Benoît XVI dans son livre « Jésus de Nazareth ». mais elle est bien et bien une donnée essentielle de notre foi. Jésus a versé son sang en rémission de nos péchés, pour les réparer, pour les expier. Mais, une fois de plus, nous allons éclairer ce paradoxe en le mettant en relation avec un autre aspect essentiel de l'amour de Dieu que nous révèle toute la Bible, à savoir que Dieu nous aime d'un amour véritable, d'un amour qui n'a rien de paternaliste. Il nous aime tellement qu'il désire que nous l'aimions en retour, comme un époux désire vraiment être aimé par sa femme. Certes, il n'attend pas notre amour pour nous aimer, il nous aime de toute éternité. Mais notre amour, l'amour des pauvres créatures que nous sommes, il le réclame, il en a soif, il le mendie, dirait Thérèse. Il est vraiment l'époux amoureux qui désire être aimé par son épouse. C'est pourquoi il a voulu que toute l'humanité puisse, par l'intermédiaire de Jésus, lui offrir un sacrifice parfait. Que Jésus lui offre au nom de toute l'humanité ce sacrifice d'une valeur infinie qui mérite le pardon de tous les péchés du monde. Est-il besoin d'ajouter que ce qui plaît à Dieu dans ce sacrifice de Jésus, ce n'est pas la souffrance de son Fils, un mal qu'il a évidemment en horreur, mais l'espèce de sourire intérieur que le Fils conserve au sein de sa passion. Loin de se révolter contre ce qui lui arrive et qu'il ne comprend pas bien, il dit oui à la volonté de son Père et répare ainsi infiniment toutes nos révoltes, tous nos blasphèmes, toutes nos désobéissances. C'est ce qu'affirme clairement l'Épître aux Romains. C'est par l'obéissance d'un seul que la multitude des hommes a été justifiée. Et la lettre aux Hébreux présente le « oui » que Jésus dit à son Père en entrant dans le monde comme l'acte essentiel par lequel il nous a sauvés. Si Dieu a voulu que son Fils lui offre un sacrifice en réparation de tous les péchés du monde, c'est aussi pour que nous puissions transformer toutes nos souffrances en sacrifices capables de lui plaire et de sauver le monde. Quelle merveilleuse nouvelle! Quel mystère étonnant que saint Paul exprime lorsqu'il écrit aux Colossiens « En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Certes, Jésus est le seul médiateur, le seul grand prêtre capable de réconcilier les hommes avec son Père, mais nous pouvons, nous aussi, nous associer à cette œuvre grandiose de la rédemption du monde. Ici encore, ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas nos souffrances, évidemment, mais le sourire que nous conservons dans le fond de notre cœur, alors même que nous sommes terriblement éprouvés. Malgré les épines qui blessent notre corps ou notre sensibilité, nous offrons au Seigneur, disait Thérèse, les roses de notre confiance et de notre amour. Cette conviction de sauver les âmes par l'offrande de nos souffrances s'est exprimée de façon magnifique au XIIIe siècle, au porche des cathédrales. Le sourire d'un visage gothique, remarque André Malraux, n'est pas celui d'un Bouddha, c'est le sourire d'un homme ridé, buriné par les épreuves. Les plus belles bouches gothiques, écrit-il, sont les cicatrices d'une vie. Mais ce sont les cicatrices d'une vie qui apportaient des fruits. André Malraux avait compris, sans oser y croire, que la beauté incomparable de la foi chrétienne a été de transfigurer la souffrance. Offerte, elle devient féconde. Chacun a sa croix, disait le curé d'Ars. Si on connaissait tous les mérites et qu'on pût les prendre, on se les volerait les uns aux autres. Si nous pouvions aller passer 8 jours dans le ciel, disait-il encore, nous comprendrions le prix de ce moment de souffrance. Nous ne trouverions pas de croix assez lourde, pas d'épreuve assez amère. On comprend alors la joie avec laquelle tant de chrétiens ont préféré donner leur vie plutôt que de renier leur sauveur. Ils sont morts dans l'assurance que leur sacrifice porterait du fruit un jour ou l'autre. Dans une formule lapidaire, Tertullien exprimait l'espérance qui habite le cœur des martyrs, « Sanguis martyrum, semen christianorum », le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Si nous mettons des calvaires au carrefour de nos villages, Ce n'est pas seulement pour nous rappeler l'amour inouï de notre Sauveur, c'est aussi pour ne pas oublier que nous pouvons sauver le monde avec Jésus et en lui, en offrant à Dieu toutes les épreuves de notre vie. Une offrande que nous renouvelons en chaque Eucharistie.